Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Hello.
Alors pourquoi heureux aujourd'hui ?
Eh ben aujourd'hui je suis un homme heureux, heureux parce que dans la nuit de vendredi à samedi, Brittney Griner faisait son retour sur les parquets de WNBA. Vous l'entendez, 15 mois après son arrestation arbitraire, le comeback de l'une des meilleures joueuses du monde a réuni près de 10 000 personnes à Los Angeles. Dans la salle, Kamala Harris, la vice-présidente américaine, Magic Johnson, Darvin Ham, le coach des Lakers, ou encore l'ancienne championne de tennis Billie Jean King. Il faut dire que Griner, c'est la star américaine par excellence, joueuse charismatique, militante, engagée. Elle cumule tout ce qui pourrait la faire entrer dans la légende. Le style, d'abord, avec ses 2m06 et son jeu ultra physique. Le palmarès, ensuite, double championne du monde, double championne olympique avec les Américaines et championne NBA. Et enfin, l'aspect dramatique de son histoire, une histoire totalement folle dont vous vous souvenez peut-être, car sa vie bascule le 17 février 2022. Griner va se voir propulsée dans un thriller. Alors qu'elle évolue sous les couleurs d'Ekaterinbourg, elle est arrêtée entre deux matchs à l'aéroport en possession d'une cartouche de vaporette contenant moins d'un gramme d'huile de hashish. C'est illégal en Russie et elle est rapidement mise en prison. Dans l'attente de son procès, un procès fantoche, évidemment, qui débute le 1er juillet. Le 4 juillet, elle tente d'appeler à l'aide. Dans une lettre adressée à Joe Biden, elle écrit « Je suis terrifiée à l'idée d'être ici pour toujours. Je me rends compte que vous faites face à tant de choses, mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, ainsi que les autres détenus. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison. » Le 7 juillet, pensant certainement sortir de prison, et comme dans le procès de Kafka, Griner est innocente, ignore la loi mais plaide coupable. Et le 4 août, elle est reconnue coupable par le tribunal et est condamnée à 9 ans de prison. Le 5 août, la Russie se dit prête à discuter. Le 17 novembre, elle est transférée dans la prison IK2, une colonie pénitentiaire pour femmes dans la ville de Ivas, façon de mettre la pression au gouvernement américain. C'est ici qu'elle va purger les derniers jours de cette peine abusive. Car du côté américain, la situation est inacceptable. Une citoyenne arrêtée, jugée, passe encore, mais la jeune femme est un symbole. Celui du militantisme à l'américaine, ouvertement gay, engagé sur tous les fronts après la mort de George Floyd, revendiquant autant sa couleur de peau que son orientation sexuelle. Griner est aussi et surtout la première égérie homosexuelle de Nike. Au pays, elle peut compter sur le soutien de certaines stars NBA comme LeBron James ou Steph Curry, qui se battent pour que Britney ne tombe pas dans l'oubli, celui lié à la distance et au silence, le grand trou carcéral et le secret russe. La libération de BG devient alors un enjeu politique pour l'administration Biden, parce qu'elle est une immense championne, parce que la guerre en Ukraine tend les relations entre les États-Unis et la Russie, et parce que sa place n'est pas en prison. Alors, comme dans les livres de John le Carré, se dessine un marché impossible, un échange de prisonniers totalement fou. Le gouvernement russe est clair. Vous voulez votre championne ? Eh ben pas de souci. Nous, on veut récupérer Victor Bout, un homme poursuivi, arrêté et condamné pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Il s'est fait une spécialité, la vente d'armes, notamment celle de missiles sol-air. Au terme d'une opération d'infiltration de plusieurs années, il est finalement condamné en 2013 par les USA à 25 ans de prison pour, je cite, complot en vue de vendre des armes à un groupe terroriste étranger. On a donc un vendeur d'armes dangereux et une fumeuse de weed. Le 27 juillet, 20 jours après la condamnation de Griner, et voyant que les Américains sont prêts à craquer, les Russes ajoutent dans la balance de ce marché dingue Vadim Krasikov, membre des services secrets russes et assassin de Kangochvili, un informateur tchétchène basé en Allemagne. Quand je vous dis que cette histoire est totalement folle, et le dénouement est encore loin. Après des mois de tractation, après avoir tenté de récupérer Paul Whelan et Malk Fogel, des citoyens américains détenus en Russie, c'est finalement le 8 décembre 2022, après 10 mois de prison, que Griner est libéré. Bout, le marchand d'armes, lui aussi. Depuis, Griner a dû se reconstruire physiquement, d'abord pour redevenir une sportive, mais aussi et surtout psychologiquement. Elle a reconnu qu'elle ne quitterait probablement plus jamais les États-Unis, la peur certainement légitime de nouveau connaître l'enfer. Quant à son match, elle signe 18 points, 6 rebonds, 4 contre en 25 minutes. La défaite de son équipe est totalement anecdotique. Son retour sur les parquets, lui, ne l'est pas. Griner, à la fois symbole d'un monde qui change, mais qui rappelle furieusement les heures les plus sombres de la guerre froide.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cette histoire, ce retour de Brittney Griner sur les parquets. Forcément, ça nous fait plaisir. Je ne vais pas installer de débat, mais plutôt une réaction à ce que vient de nous dire Pierre, à cette histoire dont nous avons entendu parler. On l'a même raconté dans les GG, mais là, elle jouait. Et c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable pour un sportif de haut niveau. Qui veut se lancer dans le, ouais, dans le jeu, je Marie Martineau?
Eh bien, cette histoire fait appel à ma plus grande phobie, terreur, angoisse, peur, comme tu veux, le fait d'être coincé à l'étranger et qu'on te retienne à l'étranger contre ton gré et que tu ne puisses pas rentrer dans ton pays, retrouver les tiens. Mais c'est tellement une peur que j'ai arrêté de skier la première fois dans ma carrière à cause de ça, parce que je me suis toujours un peu, je m'en suis toujours un peu voulu.
De la beuh à la frontière. Oh,
c'est possible, mais j'ai des enfants, donc on n'en parlera pas. Mais donc j'ai toujours, je m'en suis toujours un peu voulu d'avoir arrêté de skier au lieu de me soigner et d'aller voir un psy pour parler de cette phobie et de trouver une solution. En fait, j'étais peut-être pas si zinzin que ça, tu vois, et je trouve ça fou qu'en 2024 cette jeune fille ait pu être l'objet de tractations politiques entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, quoi. C'est fou, quoi. Fou.
Christophe,
Poutine est capable de tout. Dans le dernier bouquin de Marc Dugain, il fait là aussi, bon, là, c'est complètement romancé, mais il fait pression, il exerce un chantage sur le président de la République, qui évidemment n'est pas Macron, mais un personnage de fiction, et on voit que ce mec-là est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et moi, cette histoire, elle me fait aussi penser à un film qui m'avait marqué lorsque j'étais ado, qui s'appelle Midnight Express,
oui.
Où tu vois un citoyen américain se faire en coincer à la frontière. Alors lui, c'était pas une tête de bœuf qu'il avait sur lui, mais il ramenait beaucoup de matos, et il se fait arrêter par les douaniers turcs et il finit en prison, et c'est un cauchemar. Il vit un cauchemar pendant des années, il est enfermé, il perd la tête, et jusqu'au jour il parvient à s'évader. Bon, ça s'est pas terminé de la même façon pour Greiner, mais c'est vrai que l'angoisse quand tu te retrouves loin de chez toi est pris entre les griffes d'un tel monstre qu'est Poutine, quoi.
Oui, d'un tel régime en tout cas. Vous qui avez fait des métiers itinérants, parce que tu nous en parlais, ça a été une angoisse pour toi, Marie. Marion, toi aussi, ça a été une angoisse à un moment donné d'être retenue dans un pays contre ton gré?
Non, parce que effectivement, bon, les tournois de tennis sont très très encadrés, et c'est la WTA, donc Women's Tennis Association, qui est une entité américaine qui gère tous les tournois et qui gère alors la partie visa pour certains pays. On a une des demandes de visa et la partie sécurité des joueuses sur un endroit donné. Mais effectivement, étant jeune, les premières fois que je suis partie à l'étranger sur les tournois juniors avant d'être professionnelle, il y a certains pays où j'ai eu une peur bleue. Je me rappellerai très bien, je me rappellerai toute ma vie. J'étais sur un tournoi junior au Brésil, et donc c'était au mois de février. Et en bas de l'hôtel, on prenait le bus qui nous a amené sur le lieu du tournoi. Et le matin, on voit un homme dessiné à la craie par terre, parce qu'il y avait eu un meurtre pendant la nuit là. Quand t'as 15 piges, autant me dire voilà, t'es pas totalement rassuré de prendre le bus et aller jouer ton match. Mais j'ai eu comme ça quelques pays où effectivement, étant jeune, j'ai eu des frayeurs assez intenses. Et puis après, une fois que tu passes professionnel, tu passes largement au-dessus de ça. Mais ce qui est très intéressant finalement dans cette histoire de cette basketteuse, c'est que ça vient... encore une fois, après autre chose, après d'autres éléments, et en partie le document Netflix qui avait été fait par les Américains pour révéler le dopage institutionnel et gouvernemental au JO de Sochi. Et donc, par répercussion, effectivement, les Russes se sont dit, on va se faire une Américaine ou on va se faire un Américain. Et malheureusement, c'est elle qui en a subi des conséquences. Et pour arriver à se reconstruire psychologiquement d'un trauma pareil, c'est d'arriver à revenir sur un parquet, c'est colossal. Donc, je pense qu'effectivement, hier, ça a dû être un moment d'émotion extrêmement intense pour elle, parce qu'elle a dû traverser le pire. Ça me rappelle les James Bond, avec les échanges, tu sais, de James Bond arrêté en Corée du Nord et qui est échangé contre un prisonnier sur un pont avec du brouillard au milieu. Oui, ça me rappelle vraiment ça, quoi.
Mais son retour aux États-Unis avait fait le tour du monde, hein. Ouais, on en avait beaucoup parlé. Marc, t'as déjà eu peur à l'étranger?
Peur à l'étranger, non. C'est une histoire de fou, mais peur à l'étranger, non. J'ai eu des inquiétudes pour... une partie de mon équipe qui était restée bloquée aux Émirats au moment du début du Covid.
Oui, du Covid, bien sûr.
Raconte-nous Arnaud Desmar, notamment.
Arnaud Desmar, entre autres. Ouais. Et puis, il y avait aussi des coureurs de Cofidis et de l'encadrement qui étaient restés bloqués pendant une dizaine de jours. Et
on ne savait pas quand est-ce que
ça allait se terminer, cette histoire, ni comment ça allait se terminer, parce qu'on était dans les premières semaines ou les premiers mois de la crise Covid. Et
tous les pays fermaient leurs frontières.
Tout était fermé. Et eux, ils se sont retrouvés isolés dans une chambre d'hôtel. Il y avait deux étages de bloqués. Ça, parce qu'il y avait eu un cas positif au même étage. Et les gars sont restés là-bas pendant une dizaine de jours. Mais ils n'étaient pas en prison. Ils étaient bien traités.
Mais tu as senti l'angoisse quand tu les avais au téléphone?
Il y avait la peur du vide, de savoir que il pouvait rester là-bas, ad vitam, enfin pas ad vitam aeternam, mais on se dit combien de temps ça peut durer. Ouais, ça peut durer une dizaine de jours, le truc.
Tu maîtrises pas du tout.
Et ça a été, et pour la petite histoire, ça a été traité au plus haut niveau de l'État, parce que on voyait bien que la situation était compliquée.
Ah oui, tu sais que la DGSE est intervenue auprès des équipes olympiques qui partaient en Chine pour les Jeux de Pékin. Et moi, j'ai eu droit aussi. Pour nous expliquer que les relations diplomatiques entre la France et la Chine étaient très très minces et qu'il valait mieux se tenir à carreau là-bas, ils ont des règles de vie qui ne sont pas les mêmes mœurs que chez nous et qu'il y en avait plutôt intérêt à les suivre, notamment par exemple se retrouver bourré sur le lieu public, c'est justement pas du tout permis chez eux, et qu'il valait vraiment qu'on se tienne à carreau et qu'on fasse gaffe parce qu'ils auraient peu d'impact, et même au plus haut de l'État, ils auraient du mal à nous sortir d'une situation compliquée.
Je me souviens que tu étais très stressé au moment de partir. Voilà.
T'imagines, je te dis, moi, je suis en panique. Il me teste positive en arrivant et il m'enferme. Mon Dieu, c'était horrible.
C'est vrai. C'est vrai.
Non,
tu parles des derniers JO à Pyeongchang, ouais. Les derniers JO d'hiver.
Les JO de Pékin.
Pékin, évidemment.
Ouais, où il y avait bulle sanitaire sur un régime totalitaire. Quoi. C'est un cumul des trucs sympas. Quoi. Ah, j'étais pas très heureuse d'être de l'autre côté.
Ok, bon, merci en tout cas, Pierre Amiche, de nous avoir une nouvelle fois conté cette histoire hors du commun.